bulletin, une feuille avec presque tous les versets de la parole qu'on va lire ensemble. Donc, on va prendre cela et on va faire une déclaration pour bien préparer notre cœur pour recevoir la parole. Donc, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Donc, ce matin, j'ai vraiment hâte de partager le message. C'est une chose qui brûle dans mon cœur depuis quelques temps maintenant. Dans le fond, c'est le deuxième message dans une série que j'ai commencé la semaine passée. Et le titre, c'est simple, mais c'est puissant, c'est « Trouver du sens dans un monde insensé ». Combien de vous, vous savez que ce monde est insensé? Hein? Il y a des choses qui se passent, les injustices, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans le monde aujourd'hui qu'on ne devrait pas voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, on peut trouver du sens. On a dit la semaine passée que sans Jésus, la vie n'a aucun sens. Mais avec lui, on trouve du sens, on trouve notre raison d'être, on découvre pourquoi nous sommes ici sur la terre. Mais combien nous avons besoin de saisir cette réalité? Comme j'ai mentionné la semaine passée encore, ici au Québec, dans notre propre province, nous avons le taux de suicide qui est le plus élevé chez les adolescents. Hein? Et je ne parle pas pour juste dans l'Amérique du Nord, mais pour le monde entier. Il y a plus des ados qui se suicident dans notre province que n'importe où dans le monde. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont aucun sens pour leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Ils n'ont pas encore découvert leur raison d'être. Et si vous ne connaissez pas votre raison d'être, vous allez faire les bêtises. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme, moi je suis convaincu que si on comprend la raison pour laquelle une chose a été créée, là on va pouvoir s'en servir comme il faut et on va pouvoir en profiter. C'est comme un violon. Est-ce qu'il y a des gens ici qui jouent le violon? Hein, je sais que M. Thérien, il joue le violon. Peut-être un jour on peut l'écouter. Hein? Mais laisse-moi vous dire une chose. Un violon, c'est un instrument qui a été créé dans un but. Il y a une raison pour laquelle un violon est créé, et ça c'est pour jouer de la musique. Mais imaginez si, par exemple, il voulait aller jouer au tennis. Il ne trouve pas la raquette, donc c'est pas grave, je vais juste prendre le violon, je vais aller jouer au tennis avec mon violon. C'est quoi qui va arriver? Il va perdre le match de 1, et il va perdre son violon aussi. Son violon va être tout abîmé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous savez, c'est exactement ce qui se passe dans les vies des gens aujourd'hui. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, ils ne savent pas leur raison d'être, et ils vont faire les choses avec leur vie qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément des personnes qui veulent faire les bêtises, mais ils vont faire les bêtises parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Et laisse-moi vous dire, les gens sont ici pour une raison. Et on va voir cela aujourd'hui. Mais combien nous avons besoin de saisir ce message? Nous qui sommes déjà dans le Seigneur, mais il faut prier vraiment pour notre société, prier pour les enfants, prier pour les jeunes. Et je lisais un petit livre que mon enfant a ramené de la maison l'année passée. C'est un livre qu'ils ont donné à l'école. Et c'est un petit livre intéressant. Un jour, 202 nouvelles de « Comment je vois l'avenir ». Et c'est un livre écrit par les enfants. Est-ce que des gens qui l'ont déjà vu ou déjà lu? C'est intéressant. Mais ils ont pris les jeunes d'ici, les enfants du Québec ou du Canada, mais il y a beaucoup qui sont du Québec ici, et les enfants de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans, et ils ont écrit un petit paragraphe de qu'est-ce qu'ils voyaient pour le futur, comment ils voyaient l'avenir. Et je regardais ce livre et je me suis dit, vois-tu, c'est pourquoi il y a tant de confusion, il y a tant de problèmes dans notre société. Parce qu'on voit qu'est-ce que les enfants... Et il y a des choses qui sont bien cute, c'est de fun de lire, mais il y a plusieurs autres choses. Si on regarde sérieusement le contenu de ce livre, on voit l'état spirituel de nos jeunes et de nos enfants. on voit qu'en gros, en général, nous sommes en train d'élever une génération d'enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas pourquoi ils sont ici. Écoutons juste quelques exemples. Ici, une petite fille, 13 ans, qui est encore québécoise. Un jour, il y aura la fin du monde. Ce jour-là, un nouveau monde naîtra et ce sera comme au début de notre monde. Il y aura Adam et Ève, la préhistoire, le Moyen Âge, notre siècle futur. Tout sera à recommencer, mais ce sera un monde qui aura évolué. Les humains ne feront que la moitié des erreurs qu'ils ont commises jusqu'à présent, et cela jusqu'à ce que le monde soit parfait. Des milliers, voire des millions d'années peuvent s'écouler avant que la planète Terre ne soit qu'un monde exemplaire d'amour, d'amitié, de joie et de compassion entre chaque être vivant. Ça a l'air bon, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire, c'est pas la vérité de la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est cute dans un sens de voir qu'est-ce que les enfants écrivent, mais quand on voit que les enfants sont des fois convaincus de qu'est-ce qu'ils écrivent, là, on voit que c'est plus sérieux. Parce qu'on voit une société qui fait les choses sans avoir la connaissance de Dieu. Donc, il y a un autre exemple que je voulais vous donner, si je peux trouver cela. Et c'est bien intéressant d'écouter ce que ces enfants disent, parce que ça nous donne un peu de lumière. Un jour, notre Terre, ça c'est un petit monsieur, un jeune homme de 11 ans du Québec, et un jour, notre Terre sera redevenue le paradis qu'elle était car l'humain l'aura quitté. Les fleurs, les arbres et les animaux pourront enfin vivre en paix et se refaire une santé. Fini la fumée suffocante des usines, les résidus radioactifs des manufactures et les montagnes d'ordures ménagères. Ceux qui seront heureux, ces petits animaux libérés des laboratoires où on les torture pour sauver la vie des gens qui sont malades parce qu'ils mangent trop et mal. Mais quel dommage, après plusieurs millénaires et après avoir saboté d'autres planètes, les humanoïdes reviendront embêter à nouveau les animaux pacifiques et saccager la nature accueillante. Ça, c'est nos enfants. Pas nos enfants, mais ça, c'est les enfants de notre province. Ça, c'est leur façon de voir le monde. Ça, c'est leur pensée. Il y a plein d'autres choses que vous... Ils parlent plus des extraterrestres que de Dieu. Il y a peut-être deux enfants qui ont mentionné Dieu. On voit qu'ils ont vraiment la crainte de Dieu. Je ne sais pas s'ils connaissent Dieu, mais ils ont quand même, ils croient que Dieu existe. Deux, surtout les, je ne sais pas combien, il y a 200 quelques récits là-dedans. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que notre société est rendu comme ça. Et vois-tu, la réponse n'est pas Dieu. C'est parce qu'on a fait tout notre possible pour enlever Dieu de la société, n'est-ce pas? Ils ont réussi aux États-Unis. Ils n'ont plus le droit de prier dans les écoles. Ils n'ont plus le droit de lire la Bible dans les écoles. Ils n'ont plus le droit. Ils peuvent faire toute autre chose. Ils peuvent distribuer les condoms. Ils peuvent parler des homosexuels et de toutes les affaires que vous pouvez imaginer. Ils peuvent faire tout, sauf parler de Dieu. Et là, c'est ça qu'on produit. On produit une société qui est à l'envers. Les gens sont vraiment, vraiment dans la confusion. Et je ne parle pas d'un pays dans le tiers-monde, je parle de notre belle province, Québec. Amen. Et on a besoin de voir un changement. Il faut trouver du sens dans ce monde insensé. Et je crois que la seule façon par laquelle on peut trouver du sens, c'est de trouver ce sens en Jésus-Christ. Amen. En fait, il y a quatre choses que je veux souligner aujourd'hui, quatre choses qui vont nous aider à trouver du sens pour notre vie et qui vont nous aider à trouver notre raison d'être. La Bible dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout le monde dit « Je suis son ouvrage, je suis créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres ». Vous savez, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez une raison d'être. Vous êtes ici sur la terre vraiment pour une raison. Vous n'êtes pas ici par hasard, même si papa et maman ont dit que vous étiez en accident. Aux yeux de Dieu, vous n'étiez pas en accident. Vous êtes ici selon son dessein et son plan. Mais la première chose qu'on veut souligner, c'est que vous êtes créés par Dieu et pour Dieu. Voulez-vous être heureux dans la vie? Combien de vous voulez vraiment avoir la joie de vivre? Vous voulez être comblé et vous voulez avoir du succès en tout ce que vous entreprenez. Si c'est votre désir, laisse-moi vous dire une chose. Il faut que vous saisissez la réalité que vous êtes créé par Dieu et que vous êtes créé pour Dieu. La plupart de nous, nous savons, même la plupart des gens croient que nous sommes créés par Dieu. Hein? Sauf qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes évolués des singes, mais franchement, hein, moi, je ne pense pas. Hein? Je sais que ce n'est pas le cas. Hein? Mon arrière-grand-père n'était pas un singe, c'est un être humain créé dans l'image de Dieu. Il y a une grande différence entre les animaux et les humains. Et aujourd'hui, ils vont dire que la race humaine, c'est juste, on est juste des animaux, mais les animaux qui sont mieux développés que les autres animaux. C'est pas vrai. Il y a une grande différence entre nous et les animaux. Nous sommes les esprits. Les animaux sont mais n'ont pas d'esprit. L'image de Dieu. Nous sommes faits dans l'image de Dieu. Nous sommes créés par Dieu, mais nous sommes créés pour Dieu. Amen. Le violon est créé pour jouer de la musique. Vous êtes créé pour aimer Dieu et servir Dieu. Et si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne servez pas Dieu dans votre vie et avec toutes vos ressources et tout ce que vous êtes, vous ne serez jamais heureux, vous ne serez jamais comblé et vous ne trouverez jamais du sens dans ce monde insensé. Amen. Il faut savoir, nous sommes créés par Dieu et nous sommes créés pour Dieu. J'ai mis trois versets qui souligne cette vérité. Il n'en est pas moins vrai que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le salut. Hébreux 2:10. Colossiens 1:16 dit, car en lui ont été créées toutes choses. Tout le monde dit toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On va le dire ensemble. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que vous êtes créé. Tout le monde dit, je suis créé par lui et pour lui. Je pense que souvent, même les chrétiens, on a une tendance d'oublier le fait que nous existons pour Dieu. Amen. On cherche le bonheur, on cherche la joie, on cherche à combler notre existence avec toutes sortes de choses matérielles, avec toutes sortes des choses qui sont des fois bonnes choses, des fois des choses qui sont moins bonnes. Mais laisse-moi vous dire qu'on ne serait jamais capable de remplir le vide qui est dans notre cœur à moins de connaître Jésus. C'est Jésus qui est notre Créateur et on est créé par lui, mais on est créé pour lui. Et je ne serai jamais heureux à moins de le savoir. Amen. Par lui et pour lui. Tout le monde dit par lui et pour lui. Deuxième chose qu'on veut souligner, c'est que autrefois, hein, si vous êtes chrétien aujourd'hui, on peut dire autrefois. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, c'est encore vrai pour vous. Mais autrefois, pour le chrétien, le péché vous poussait à vivre pour vous-même. Tout le monde dit moi-même. Autrefois, le péché vous poussait à vivre pour vous-même. Le péché nous rend égoïstes. N'est-ce pas vrai? Le péché nous fait penser à nous-mêmes. Moi, je, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Qu'est-ce que je veux gagner comme salaire? Qu'est-ce que je veux acheter avec mon salaire? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je, moi, ça c'est notre société. Amen? Encore, on le voit dans ce petit livre, on voit tellement des enfants qui disent les choses et on voit jusqu'à quel point le monde est devenu égoïste. Il y a des enfants ils ont des bonnes idées, mais d'autres, on voit, un jour mon rêve deviendra réalité, tout me sera possible. Ne doutez pas de moi. Je suis comme une étoile filante. Le ciel est ma seule limite. Je suis l'avenir. Celui qui est beau, celui qui est le meilleur. Mon plaisir est de tout connaître, de tout apprendre, de tout inventer, de tout réaliser. Grâce à moi, de nouveaux horizons seront découverts, de nouvelles limites seront à dépasser. La terre entière vivra de grandes joies. Donnons-nous la main et partons tous ensemble pour un voyage magique, celui de notre avenir. Voyez la vie comme moi. Elle sera merveilleuse. Dans un sens, on dit, « Hey, ça, c'est un enfant en santé qui a une bonne estime de soi. » Oui, c'est vrai, il y a des... Hein? Mais il y a une chose qui manque, il y a un élément manquant dans son histoire. Où est Dieu? Où est Jésus? On devrait être capable de dire avec elle, « Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, le monde sera différent parce que je suis là, mais ce n'est pas parce que c'est moi, c'est parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis créé par lui et pour lui. Il y a un autre jeune homme qui a dit, un jour, je vais être marié avec une belle femme, je vais être au volant d'une Porsche 915, je vais avoir un hôtel en Floride, je vais avoir un appartement à côté de Tour Eiffel à Paris, des gens vont travailler pour moi, je vais avoir 50 000 employés, je vais avoir une maison de 30 pièces. De chambre, je veux dire. Hein? Mais vous voyez, le monde est égoïste. Pourquoi? C'est parce que le péché nous a poussés à vivre pour nous-mêmes. C'est vrai, n'est-ce pas? Moi et je. C'est la seule chose qui compte pour la plupart des gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que, alléluia, numéro 3, l'amour divin. Tout le monde dit l'amour. L'amour divin nous rend capables de vivre pour lui. Vous savez, Dieu veut qu'on vive pour lui. Il ne veut pas qu'on vive pour nous-mêmes. Il veut qu'on vive pour lui. Naturellement, je ne suis pas capable. Dans le naturel, en étant un homme qui est né dans le péché, je ne suis pas capable de vivre pour Dieu. Je suis poussé à vivre pour moi-même. Je suis poussé à faire tout ce que je peux pour me rendre heureux. Peu importe qui je vais blesser dans le processus. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, tout le monde dit la bonne nouvelle, c'est vraiment un message positif aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu nous rend capables de vivre pour lui. Vous êtes créés par lui et vous êtes créés pour lui, mais ça prend une révélation de l'amour de Dieu. Si vous voulez vivre pour lui. On a vu la semaine passée que autrefois vous marchiez dans les ténèbres, vous étiez morts dans vos péchés. Autrefois, vous marchiez selon le prince de l'air, selon celui qui contrôle maintenant les fils de la rébellion. Autrefois, on était tellement complètement égoïste, on vivait selon la nature pécheresse, on allait dans le mauvais sens. Mais quand on voit Jésus, et quand on reçoit Jésus, il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à tourner de bord et changer la direction de notre vie et de ne plus marcher comme je marchais autrefois. Amen. Qu'est-ce qui peut produire ce changement dans mon cœur? Ce n'est pas la force de volonté. Il y a bien des gens qui veulent arrêter de faire la drogue, qui veulent arrêter de faire mal à leur épouse. Vous savez, il y a des hommes qui vont battre leur épouse et puis ils regrettent à chaque fois. Ils ne veulent pas. C'est comme c'est plus fort qu'eux. Mais ils ne veulent pas être comme ça. Ils ne veulent plus continuer d'être dans ce sens-là, mais ils ne savent pas comment changer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'amour qui nous fait changer. Lisons quelques versets de la parole de Dieu. Romains, chapitre 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, comment on dit sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est quoi qui te pousse à la repentance? C'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Quand je réalise jusqu'à quel point Dieu est bon... Parce que laisse-moi vous dire, la repentance, c'est pas juste tourner le dos au péché, mais c'est de tourner le visage à Jésus. Amen? Il y a trop de gens qui ont une pensée négative concernant la repentance. Pour eux autres, se repentir, c'est juste arrêter de pécher. Mais vois-tu, ça, c'est même pas la chose la plus importante. C'est pas... Oui, Dieu veut que tu arrêtes de pécher. Pourquoi? Parce que ça fait mal et ça va détruire ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu veut plus qu'autre chose? C'est que En arrêtant de vivre pour vous-même, vous commencez à vivre pour lui. En tournant le dos au péché, vous tournez le visage à la vie de Dieu et à toute la bonté de Dieu, à toutes les bénédictions de Dieu, à tout le bonheur et la joie que Dieu veut vous offrir. Amen. Et laisse-moi vous dire, c'est pas juste la crainte de l'enfer ou la crainte des conséquences du péché qui nous fait tourner de bord, c'est la bonté de Dieu. On regarde Dieu et on voit, il est bon. Il a des bonnes choses préparées pour moi. Il m'a créé pour des bonnes œuvres. On regarde le péché et on voit le diable qui est menteur, qui est méchant, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On dit, je veux rien savoir de ça comparé à la bonté de Dieu. C'est facile de se repentir quand on voit jusqu'à quel point Dieu est bon. Amen. Il ne vous privera pas d'aucun bien. Vous savez, des gens ont l'idée que Dieu, il ne veut pas que vous ayez de fun. C'est comme quand j'avais 16 ans, je gardais à peu près 26 enfants en genre de service après l'école. J'avais à peu près 26 enfants. Il y avait un terrain de bois juste en arrière de l'église où c'était. Et les enfants voulaient toujours aller jouer dans le bois. Mais moi, je savais qu'il y avait de l'herbe à pousse, c'est ça, hein? À puce? Je m'excuse. L'herbe à pousse, hein? Il y avait des mauvaises herbes, là. Non. Qui donnent des démangeaisons. Et je savais que si ils vont aller jouer là, ils vont avoir du fun. Ils vont avoir du plaisir. Ils vont s'amuser bien comme faut dans le bois. Mais je savais que la soirée, ils n'auraient plus de fun. Ils vont avoir des démangeaisons. Et ça va piquer. Ça va être vraiment, vraiment pas agréable. Donc, j'ai dit, non, c'est défendu, tu ne peux pas aller jouer là. Ah, pourquoi tu es méchant, tu n'es pas gentil avec nous, tu ne veux pas qu'on ait du plaisir, da. Il se plaignait devant ma face, il se plaignait. Je dis, écoute, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je ne veux pas que tu te fasses mal. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, j'ai un bon plan pour ta vie, j'ai des belles choses à t'offrir, repentez-vous, suivez-moi, vivez pour moi, et vous allez avoir un bon temps. Amen. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on ait du plaisir. Hein, les gens qui disent, oh, Dieu ne veut pas qu'on ait du fun, il a défendu le sexe avant le mariage, etc. Il ne veut pas qu'on ait du plaisir. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il veut que tu aies une relation saine, qui est vraiment satisfaisante, dans le contexte du mariage, qui va durer longtemps, au lieu d'avoir quelques minutes de plaisir, qui va produire des problèmes dans votre vie. Amen. Quand on voit la bonté de Dieu, c'est facile de se repentir. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 13. Je veux vraiment que vous lisiez ce verset avec moi, soit dans vos Bibles ou dans vos notes. Alléluia. On parle de trouver du sens dans un monde insensé, et c'est l'amour divin qui nous rend capables de vivre pour lui. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. C'est quoi qui nous presse? L'amour nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, pourquoi? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous la différence, le contraste? La volonté de Dieu, c'est qu'on vive pour lui, comme on dit pour lui. Mais j'aime ce même verset dans la traduction du Parole vivante qui dit, « Et pourquoi est-il mort pour tous? » Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Laisse-moi vous dire, si vous vivez pour vous-même, votre vie est essentiellement une petite vie égoïste. Vous ne ferez jamais grande chose dans votre vie. C'est une petite vie. Amen. Mais si vous vivez pour Jésus, vous pouvez avoir une grande vie et une vie abondante. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si la semence ne tombe pas, le grain ne tombe pas par terre et ne meurt pas, il reste seul. Il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Votre vie est une semence. Et si l'extérieur de notre vie, c'est comme une semence, c'est dur, Et aussi longtemps qu'on refuse d'être planté, on refuse de laisser le Seigneur avoir sa volonté dans notre vie, on reste seul. Notre vie est une petite vie égoïste. Mais si on dit, OK, Seigneur, j'ouvre mon cœur, je veux vraiment céder ma volonté à ta volonté, on tombe par terre, on meurt à nos propres désirs, on meurt à qu'est-ce qu'on a planifié pour notre vie, là, le Seigneur est capable de prendre notre vie, de la faire pousser afin qu'on produise beaucoup de fruits. Amen. Imaginez, un grain de sénévé est tout petit, mais et ça va rester petit à moins d'être planté. Mais une fois planté, ça devient énorme. Votre vie est pareille. Est-ce que vous êtes tanné d'avoir juste assez, pas assez de joie, pas assez d'argent, pas assez des autres choses dont vous avez besoin? Laisse-moi vous dire la raison pour laquelle souvent, c'est parce que nous vivons pour nous-mêmes au lieu de vivre pour lui. Amen? Alléluia! Et c'est ça qu'on va voir dans les semaines à venir. Allez, l'amour divin nous rend capables de vivre pour lui. L'amour de Dieu nous presse. Mon Dieu, l'amour me presse. Dans vos notes, j'ai écrit que le mot grec pour presse, c'est le mot sunako, qui peut signifier, parmi d'autres choses, un enclos à bétail où les bêtes sont tenues de tous côtés, les mettant dans une position où elles ne peuvent bouger. OK? Et pour que le fermier puisse les soigner. Je veux que vous ayez cette image. Le mot presse, ça veut dire enclos. Autrefois, la Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes. On vivait tous pour nous-mêmes. On suivait nos propres sentiers. La Bible dit aussi en Proverbe 4 qu'il y a un sentier qui sent bon en homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Ils pensent que tout va bien dans leur vie. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils ont une belle femme, une belle auto. Ils ont un rire qui fait de l'intérêt. Ils pensent que tout est sous contrôle. Mais dans le fond, ce sentiment mène à la mort parce qu'ils ne vivent pas pour Dieu, ils vivent pour eux-mêmes. Amen? Ils sont comme les brebis errants. Ils n'ont pas de sens, pas de direction dans leur vie. Ils vivent pour eux-mêmes. Chaque personne va dans son propre sens. Mais l'amour de Dieu nous presse. Comme un enclos. On prend des animaux qui sont dispersés, on les amène dans l'enclos, et là, ils ne peuvent plus bouger. Ils ont un sens. La tête est là, la bouche est là, et le fermier est capable de leur donner ce dont ils ont besoin. Dieu veut nous donner les choses dont nous avons besoin, mais pour qu'il soit capable de nous donner ce dont nous avons besoin, il faut que nous soyons dirigés dans le bon sens. Amen? Il faut que notre vie soit vraiment dirigée pour lui, et on vit pour lui. Ma motivation, c'est de vivre pour Jésus, et quand je suis pointé dans le bon sens, je suis capable de recevoir tout ce que Dieu veut me donner. Amen? C'est comme un détroit. C'est marqué dans vos notes encore. C'est comme un enclos, mais c'est comme un détroit qui force un navire dans un canal étroit. C'est quoi qui fait ça? C'est pas la peur, c'est pas la crainte, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime tellement. Et quand je vois sa bonté, c'est facile pour moi de tourner dans le bon sens. Et si je fixe mes yeux sur l'amour et la bonté de Dieu, je suis pressé même, forcé presque à faire la volonté de Dieu, si je suis l'amour. Amen. Combien de vous avez eu un problème avec les souliers, des fois, le lacet qui est tout frissé, hein, vous savez? Le mot presse peut dire, c'est comme si on prend ça et on essaie de mettre ça dans le trou, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans la bouche, on presse chaque petite fibre ensemble, on le tourne comme ça, on presse. Et là, on est capable de donner un sens au lacet. Et on est capable de mettre l'assiette au plein centre du trou. Et quand on est animé par l'amour et on est rempli de l'amour de Dieu et on vit en amour avec Dieu, notre vie est pressée, notre vie est dirigée et on est capable de se mettre dans le centre de sa volonté. Amen? C'est l'amour. Je vois jusqu'à quel point Dieu m'aime et ça me presse. Alléluia. Alléluia. Et c'est bon. Numéro 4. Alléluia. Il faut vivre pour Jésus de tout votre être. Une fois que vous avez ressenti et vous avez eu une révélation de l'amour de Dieu, il faut prendre une décision parce que Dieu ne va jamais vous forcer de faire sa volonté. Il faut céder votre cœur à son cœur et dire, OK, Seigneur, je ressens ton amour me presser. Ton amour est en train de m'entourer. Ton amour me dirige. Ton amour me donne du sens. Amen. Tout le monde dit, l'amour me donne du sens. Ton amour me donne du sens, mais là, il faut que je prenne une décision. Je vais vivre pour vous de tout mon être. Et là, je vais trouver le bonheur. Là, je vais trouver la joie. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à Matthieu 12, 30? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tout le monde dit tout. Tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Savez-vous que Jésus veut que vous viviez pour lui à 100%? Voulez-vous avoir 100% de succès dans votre vie? Soyez pressés par son amour. Pressés pour que vous puissiez entrer dans le plein centre de sa volonté et pour que vous puissiez vivre pour lui avec tout votre être. Amen. Créé par lui et vous êtes créé pour lui. Et votre vie n'a aucun sens si vous ne vivez à 100% pour lui. Dieu veut que vous soyez en feu. En fait, Jésus a dit, hein, j'aimerais que tu sois soit froide ou soit chaud ou bouillant. Sinon, si vous êtes tiède, il a dit, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est assez sérieux. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut 100% de notre vie, 100% de notre cœur. Là, on va trouver du sens. Là, on va trouver de la victoire. Amen. Il faut qu'on vive pour lui de tout notre être. Quatre choses. Et on va voir ces choses un peu plus à fond dans les semaines à venir. Mais si je vais vraiment vivre pour Jésus de tout mon être, hallelujah, il faut que je lui donne tout mon temps. Dans vos notes, vous pouvez écrire mon temps. Vous n'avez que 24 heures par jour. Qu'est-ce que vous faites avec ces 24 heures? Est-ce que vous vivez avec votre temps pour Jésus ou est-ce que vous vivez pour vous-même avec votre temps? Et je ne parle pas d'une vie religieuse. Je ne dis pas qu'il faut 24 heures sur 24 flécher les genoux et prier et chanter les hymnes. Non, vous pouvez aller travailler, jouer au golf, aller à la piscine avec votre famille, vos enfants. Vous pouvez vous amuser, avoir du fun, avoir du plaisir. Mais si vous le faites pour lui, vous allez avoir du sens à ce que vous faites. Amen. Vous allez trouver de la joie que Dieu veut que vous trouviez. Hallelujah. Mon temps. Deuxièmement, mes talents. Toutes ces choses commencent avec un T. Mon temps, tout mon temps, tous mes talents lui appartiennent. Savez-vous que vous êtes doué? Vous avez un don à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous faites avec votre don? Il y a des personnes qui sont douées comme musiciens qui jouent dans le monde et qui jouent pour le diable aujourd'hui. Mais laisse-moi vous dire, ils ne seront jamais satisfaits, ils ne seront jamais heureux dans la vie à moins de mettre ce don de musique au service du Seigneur des Seigneurs et des rois, amen. Même chose pour vous, vous avez d'autres dons, des capacités dans la construction, pour faire le ménage, n'importe quoi. Si vous faites ce que vous faites pour le Seigneur, vous serez heureux et vous allez trouver du sens. Mon temps, mes talents. Prochaine chose, c'est mon trésor. Vous savez, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartient. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'accueillir des richesses, n'est-ce pas vrai? Combien de vous, vous croyez que notre pain quotidien vient de lui? Et qu'est-ce que Dieu veut? Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il y a des gens qui disent, oh, j'aime Jésus, mais il ne lui donne jamais du temps. Ils ne lui donnent jamais de leur talent et ils ne donnent jamais de leur argent non plus. Le temps, les talents, les trésors. Et la quatrième chose, il faut vivre pour lui avec tout mon temple. Mon temple. C'est quoi le temple? La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je suis créé par Dieu et je suis créé pour Dieu. Si je veux vraiment être heureux, il faut laisser l'amour de Dieu me presser. Et quand je suis pressé, dirigé par l'amour de Dieu, je vais dévouer mon temps à lui. Je vais dévouer mes talents à lui. Je vais dévouer mes trésors à lui. Et je vais dévouer même mon temple à lui. Ce n'est pas moi. La Bible dit que je suis racheté en grand prix. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Mon corps a été racheté. Mon corps appartient à Jésus parce que Jésus a payé avec son propre sang pour me délivrer et pour me racheter. Amen. Voulez-vous être heureux? Vivez pour Dieu avec tout votre cœur. On va lire juste un verset pour terminer ce matin. Marc chapitre 8. Puis,
Et en appelait la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire arrêter de vivre pour lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est marqué? La sauvera. Ou, quelques versions disent, la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération d'adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. La vie se trouve en Jésus. Plus je suis prêt à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas ma volonté, plus je suis prêt à prendre ma croix et dire, Seigneur, peu importe ce que j'ai planifié, moi j'ai planifié d'être journaliste, c'était mon désir. Mais combien je suis heureux d'être pasteur aujourd'hui au lieu d'être journaliste. Combien je suis heureux, je suis marié avec une belle femme, j'ai 5 enfants qui sont bénissants, je suis heureux. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai trouvé du sens pour ma vie en servant Dieu et en vivant pour lui. Amen. Jésus est ce que nous cherchons. Et juste pour donner un dernier exemple dans ce petit livre, c'est intéressant parce qu'il y a un petit garçon qui a écrit quelque chose de bien intéressant. Je pense que c'est sur page 108. Alléluia. On va voir que dans le fond, le monde cherche Jésus. Voici c'est une fille, 10 ans, qui a dit, un jour, un homme va venir sur la planète Terre. Lui, il sera tellement avancé qu'il pourra guérir les malades, la pauvreté et la faim, sauver le monde, arrêter la pollution, donner de la nourriture à tous. La race humaine n'aura jamais vu un homme si avancé. Les places en guerre auront la paix. Il apportera la paix au monde. Il va donner l'éducation à tous les enfants. Il va aider la planète à devenir un pays. J'espère un jour les frontières des pays disparaîtront comme le mur de Berlin. N'est-ce pas de valeur que cette jeune fille ne sait pas que ce monsieur est déjà venu? Il s'appelle Jésus. Il est déjà venu. Un jour, un homme viendra. Il est venu. Il va revenir une deuxième fois. Mais il est venu. Et vous savez, on voit dans le cœur de cet enfant, il y a quelque chose. La Bible dit que l'éternité a été placée dans le cœur de chacun, même les non-croyants. Il y a quelque chose qui dit dans le cœur d'un homme, Dieu existe, il est là, et il y a enfin une soif pour Dieu. Amen. Et c'est là où les enfants de notre génération, les adultes de notre génération vont trouver du sens dans ce monde insensé. C'est en rencontrant cet homme qui s'appelle Jésus. C'est lui qui donne le sens. Et c'est lui qui nous appelle. Si vous voulez venir après moi, il faut renoncer à vous-même. Il faut prendre votre croix, il faut me suivre. Parce que si vous renoncez à votre ancienne vie, vous allez trouver la vraie vie. La vraie vie. La joie, le bonheur, la prospérité, la guérison, tout ce dont vous avez besoin, pleinement, abondamment. Amen. On va prier, si on peut avoir juste un peu de musique. On va prier ce matin. On va se lever debout. Alléluia. Ma prière, c'est que ce message soit vraiment saisi de votre cœur. Dieu nous appelle à vivre pour lui. Imaginez si tout le monde ici à 100% vivrait pour Jésus avec tout leur temps, tout leur talent, tout leur trésor, tout leur temple. Si tout était dévoué à Jésus, c'est la raison pour laquelle nous sommes créés. C'est notre raison d'être. Autre chose, c'est la folie, c'est de l'abus. Mais si on donne tout à lui et on vit pour lui, on va vivre en vérité. Alléluia. Merci, Père Céleste. Avec tous les yeux fermés, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit dans son cœur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et je crois qu'il est ressuscité. Peut-être tu sais que Dieu existe. Peut-être tu sais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il t'aime. Mais tu n'as jamais pris une décision de donner ta vie à lui et de vraiment vivre pour lui. Adam, à cause de l'ignorance, tu vis pour toi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, tu veux te repentir, tu veux tourner changer de direction. Tu veux donner ton cœur et ton être entier à Jésus pour que tu puisses le suivre et trouver la véritable vie, trouver du sens dans ce monde insensé. Avec tous les yeux fermés, je ne vais pas vous embarrasser, mais si vous êtes ici et vous voulez prier ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus, je vais vous inviter à lever la main. On va prier ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait « Oui, je veux donner ma vie à Jésus » Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait « Oui, je veux vivre pour Jésus ce matin » Qu'est-ce que Jésus a dit? On a lu. Alléluia. Alléluia. On a lu que dans ces générations adultères et pécheresses, il ne faut pas avoir honte de lui. Mais il faut être capable de confesser lui devant les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait oui? On va tous prier ensemble. On va faire cette prière de notre cœur. Père Céleste, me voici. Je suis créé par toi et pour toi. Je veux vivre pour toi de tout mon être. Tout mon temps, tous mes talents, tous mes trésors et même tout mon temple. Merci Seigneur. Que ton amour me presse. Ton amour me donne du sens dans ce monde insensé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes avec tous les yeux fermés, si vous êtes ici et vous dites, pasteur, je suis déjà né de nouveau, je sais que je suis enfant de Dieu, mais je n'ai jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans le sens d'être rempli avec l'évidence de parler une autre langue. Il y a une chose que la Bible nous promet, c'est que si on demande, on peut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en chacun de nous qui sommes nés de nouveau, mais on peut être rempli de lui jusqu'à déborder. Et l'évidence, c'est qu'on va pouvoir parler notre langue et avoir un langage céleste pour prier et communiquer avec Dieu. Si c'est une chose qui vous intéresse, juste levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de recevoir? Il y a une personne. Donc, ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vous invite juste à venir ici en avant. On va chanter. Juste avancez-vous si vous voulez recevoir ce don. Et ne soyez pas gênés. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs qui ont levé la main, mais... Soyez pas gênés. Je vous invite. On va chanter un autre chant. Donald Paquin va être ici en avant pour prier avec ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va prier et on va louer. On va chanter un dernier chant. Je vais aller à la porte vous donner la main. Je vous encourage à marcher pour Jésus, vivre pour Jésus cette semaine. N'oubliez pas notre réunion de prière mercredi. N'oubliez pas non plus notre fête. Alléluia.